RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC. On est presque à la rentrée de la NBA. Pas tout à fait, mais c'est notre premier épisode spécial NBA puisque la Coupe du Monde est terminée. Nous allons donc parler des transferts de cet été avec Stephen Brun, Sacha, Alix et Fred Weiss. Salut les gars.
Salut mon petit Pierrot.
On a complètement refait le casting par rapport à la semaine dernière à cause du quiz. Voilà, c'est-à-dire qu'on a tiré les deux qui ont été honteux.
Terminé.
Fred les a massacrés, mais ils ont été trop nuls sur la Dream Team 92, qui est quand même la base.
Bah, tu peux pas dire aimer le basket et ne pas te connaître.
Si tu te présentes dans un quiz basket et que t'es pas capable de sortir deux noms de la Dream League 92, tu sors. Bon, bah là, ils sont.
Mais, on les embrasse quand même, mais.
Non, exclusion temporaire.
Temporaire, bien sûr.
Là, ils bossent. Ils sont en train de dire des bouquins.
Ils sont en train de regarder tous les matchs de 92 à Barcelone de la Dream Team.
Alors, quelle franchise sort gagnante de l'intersaison? Il y a eu 2-3 gros trades. Hein. Parfois, c'est plus agité, mais il y a eu quand même des choses très intéressantes et on va essayer de déterminer qui est le gagnant. Est-ce que le all-in de Phoenix peut fonctionner ou pas? Ça, on va démarrer par là. Ensuite, il y a une question troublante. Comprenez-vous Damian Lillard? Après avoir fait toute sa carrière aux Blazers, il veut partir, il veut aller à Miami. Et puis, dans notre partie historique, vous allez me dire justement quel transfert a fait le plus de mal à l'image d'un joueur, à la légende d'un joueur. Donc rendez-vous tout à l'heure pour la troisième partie de ce Basket Time. Et le quiz, ce sera une boucle temporelle.
Ah, ça y est, on adore les boucles. Il recommence ses conneries.
Nous allons partir de Damian Lillard pour revenir à Damian Lillard en prenant des chemins très très escarpés. Hein. On va aller très loin de Damian Lillard. Hein.
On ira à Portland quand même, Oregon.
Alors on démarrera à Portland, on finira à Portland, mais on passera même par l'Europe. Voilà, je vous donne juste des petites indications.
T'as bien bossé, Pierrot, voilà, j'ai l'impression.
J'aime bien faire des petites boucles comme ça. Ça m'amuse, ça m'apprend des choses surtout.
Et puis ça te permet de ne pas penser au match du PSG en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.
Exactement. Eh oui. Exactement. Et allez Paris. Hein. Allez, c'est parti. Donc Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Les transferts en NBA.
June 18th transaction. Phoenix Suns receive Bradley Beal, Jordan Goodwin, and Isaiah Todd. Boston Celtics receive Kristaps Porzingis. Washington Wizards receive Tyus Jones, Danilo Gallinari. Memphis Grizzlies receive Marcus Smart. Golden State Warriors receive Chris Paul. Washington Wizards receive Jordan Poole.
Alors, vous avez entendu en version originale les principaux mouvements de cet été. Alors, évidemment, Bradley Beal à Phoenix, c'est ce qui doit marcher le plus rapidement. Hein, c'est le all-in. Mais il y a également donc Jordan Poole au Wizards, Porzingis à Boston, Marcus Smart à Memphis et Chris Paul à Golden State. Pour faire quoi, ça, on va en parler. Est-ce que tu peux nous résumer quand même ce mouvement de dingue qu'a fait Phoenix, Sacha?
Oui, alors c'est un mouvement qui s'est fait avec trois équipes. Les Suns ont récupéré, donc comme tu l'as dit, Bradley Beal, Jordan Goodwin, Isaiah Todd. Les Wizards ont reçu Chris Paul qui aurait été transféré derrière, Landry Shamet et le pic de draft qui s'est transformé en Bilal Koulibaly, notre joueur français. Les Phoenix Suns ont lâché 6 ans de draft hein, concrètement dans ce move-là. Et les Pacers avaient récupéré eux aussi quelques tours de draft pour être l'équipe complémentaire pour que tout se fasse. En gros, la principale contrainte qu'il y avait, c'est qu'il fallait faire sauter la clause de non-échange qu'avait Bradley Beal, mais c'est lui qui a dit qu'il voulait la faire sauter, donc tout s'est bien passé. Et c'est clairement le
move que lui avait la main sur son avenir en avec cette clause, c'est ça?
C'est ça. D'accord. C'est quand t'es un gros joueur, t'as cette clause de non-trade. Il y a Carmelo Anthony qui l'avait exercé pour sortir, je crois que c'était d'OKC.
Kobe l'a vu, je crois.
Et tous les gros joueurs. Et c'est la clause que tu rajoutes pour prendre un peu plus d'oseille. Et puis voilà, quand t'es un gros joueur, t'as ce statut-là. Et maintenant, Phoenix a une équipe plutôt sexy sur le papier. Parce que...
Alors vas-y, fais-nous un peu le 5 de Phoenix. Là.
Alors sur le 5 de départ, forcément, tu vas avoir Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant. T'auras dit DeAndre Ayton. Après, je sais pas vraiment qui ils vont utiliser au poste 4. Moi, c'est une question que je me pose. Je sais pas si vous avez déjà une idée.
Je pense que KD va jouer 4. Ils vont mettre Eric Gordon starter avec Booker et Bradley Beal.
Donc ouais, moi il y a aussi cette configuration là et après moi je trouve que l'équipe elle est intéressante, notamment avec les joueurs du banc. C'est ce qui leur faisait cruellement défaut je pense l'année dernière, mais là moi je vois des noms qui sont intéressants, les TJ Warren qui sont des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont eu des pointes, qui doivent se relancer parce qu'il y a eu des blessures. J'aime bien le fait qu'il y ait Okogie qui est un super gros défenseur.
Je suis sûr que t'aimes Bol Bol aussi.
Ouais, bon, après, Bol-Bol, c'est un peu le folklore. Non, par exemple, Terence Ross, tu vois, c'est un joueur qui est sorti de banc, mais toujours des points. Sa spécialité, alors, c'est pas toujours très, très collectif, mais il y a du sens.
Comment on fait pour jouer avec tous ces gars qui aiment le ballon, là, qui aiment shooter quand même? Booker, Bill, Durant, ça va marcher, ça?
Bah, je crois qu'il y a une hiérarchie hein, qui est déjà établie. On sait qui est le go-to guy de cette équipe. Et après, je pense que Bradley Beal, je pense qu'il va être capable.
Tu me dis, on sait qui est le go-to guy de cette équipe. Moi, je te dis, j'aurais tendance à te dire Kevin Durant, mais je suis même pas sûr parce que Booker est quand même le patron.
Moi, je me dis Booker. Je pense que Kevin Durant est capable de gagner les matchs avec tout seul. Évidemment, on le sait. Et à mon sens, Devin Booker, c'est le boss de la franchise. C'est sur lui qu'on a misé. Il est encore là. Et pour moi, c'est le joueur principal de cette équipe. Même si effectivement, Kevin Durant et lui sont assez proches par rapport à ça. Et Bradley Beal est quand même un ton en dessous. Et il va devoir s'accommoder de ça, à mon sens.
Mais ça va marcher ou pas? Parce que ça, il y en a eu tellement des équipes comme ça avec des gloutons.
Il y en a eu tellement. La dernière, KD joue que 8 matchs de saison régulière. Donc on n'a pas vraiment vu l'association Booker Kevin Durant.
Non, on a vu Honnêtes, la cata quoi.
Avec Harden et
ils ont joué 16 matchs ensemble hein, Honnêtes aussi pour contextualiser.
Mais moi je rejoins Fred, je pense que le fait que, et ça a été officialisé, on rappelle quand même que Phoenix a dégagé Monty Williams et a fait venir Frank Vogel, donc c'est un nouveau coach sur le banc. Frank Vogel qui était champion avec les Lakers l'année où ils ont terminé dans la bulle. Le fait d'officialiser Bradley Beal sur le poste de meneur de jeu me fait dire que Devin Booker restera l'option numéro 1, parce que tu aurais pu très bien décaler Devin Booker sur le poste de meneur de jeu parce qu'il est capable de le faire, mais si tu le laisses sur le poste derrière, ça veut dire ça veut dire que tu t'estimes que tu vas l'utiliser en mode scoreur pour mettre des points. Donc Fred, moi je rejoins Fred sur le fait que Booker soit l'option numéro 1 de Phoenix. Maintenant, j'ai une vraie interrogation sur le poste de meneur de jeu. Bradley Beal, dans sa carrière, il a quasiment jamais joué meneur de jeu. Quand on connaît les qualités du garçon, qui est un glouton aussi, qui pendant toute sa carrière à Washington a fait que shooter et mettre des points, même si ça améliore
sa qualité de passe. Il a les boules. Hein.
Il a les boules quand il passe le ballon, Bradley Beal. Mais j'attends de voir sa capacité à organiser, à mettre des choses en place, à donner le ballon à Kevin Durant, à donner le ballon à Devin Booker, surtout qu'ils ont perdu Cameron Payne, qui était un backup meneur très cohérent du côté de Phoenix. Finalement, c'est le petit Goodwin qui arrive du trade avec Washington qui va se retrouver backup meneur de jeu. C'est là, pour moi, le vrai point d'interrogation. Bradley Beal, sa capacité à se transformer en playmaker.
Il va falloir qu'il soit intelligent. Il va falloir qu'il soit très intelligent. Il est un petit peu en difficulté sur
les 4
dernières
saisons. C'est quoi sa personnalité à ce mec?
Ben, en fait,
capable de se mettre au service d'un collectif.
On sait pas vraiment sur les dernières années, parce que là, il avait vraiment explosé et il était vraiment l'option numéro un à Washington. Et en plus, il s'est un peu blessé sur les deux dernières saisons. Je pense qu'il a envie de se relancer et je pense qu'il a envie de gagner un titre. Donc lui, il a son contrat, il a l'argent qu'il veut, il a la possibilité de gagner un titre. Et je pense que c'est un mec suffisamment intelligent pour se mettre au diapason.
Après, ils ont fait un truc dingue, c'est-à-dire qu'ils ont plus de tours de draft pendant 4-5 ans.
All-in.
C'est all-in là, vraiment. All-in. Hein. Comme d'autres ont fait avant. Hein. Finalement, ça marche pas si souvent que ça. Des exemples qui ont fonctionné, il y a Boston évidemment, mais bon, échecs, il y en a plus que des réussites
après,
quand même.
Après, ils peuvent se dire que Devin Booker est encore jeune et que DeAndre Ayton est encore jeune et que dans le pire des cas, si ça marche pas, tu peux éventuellement reconstruire autour de ces deux garçons-là.
Tu pensais que DeAndre Ayton resterait, toi déjà?
Non, parce que ça a très mal matché.
Bismack Biyombo, il peut pas lui prendre sa place, non? C'est beaucoup moins fort.
Ouais, Bismack Biyombo, il a les mains pleines de pouces. C'est un défenseur rebondeur.
C'est pas le même niveau.
Mais DeAndre Ayton, t'as raison.
Enfin, tu as raison. Qu'est-ce qui va lui rester comme ballon?
T'as raison de parler de DeAndre Ayton, parce que l'année dernière, quand ils se font taper contre Denver, DeAndre Ayton est en mode, enfin Casper quoi, il disparaît complet du match-up face à Nikola Jokic, et c'est lui qui a, au-delà de Booker, Durant et Bradley Beal, c'est lui qui a une part importante de la saison de Phoenix sur sa capacité.
Pour la séance déjà.
Exactement, parce que les défenses vont tellement être omnubilées par les trois loustiques. Il va avoir des choses à faire. Alors je pense qu'il va prendre des rebonds déjà beaucoup parce que les trois qui vont bombarder, il va avoir du rebond à prendre.
Il va quand même beaucoup courir d'un côté à l'autre. Hein.
Il va faire beaucoup de piques, il va faire beaucoup d'écrans. Mais je pense qu'il va avoir des Bill est capable de passer le ballon, Booker aussi, KD on connaît sa qualité. DeAndre Ayton, j'ose espérer qu'il mette des points quand même et qu'il soit impactant dans le jeu. Elle est là aussi la clé de... et puis Frank Vogel voir comment il va gérer ça. Quand t'es coach et tu te prends Durant, Bill et Booker, on t'attend au tournant aussi. Hein. On sait que la NBA est une ligue de joueurs, mais elle propose des choses quand même mon grand, parce que si, comme on a vu dans beaucoup de franchises, allez-y, faites ce que vous voulez. Ça je suis pas sûr ça. Que ça fonctionne. Ouais.
Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur le all-in, moi je suis très content que les Nuggets, justement, aient gagné le titre. parce que ça prouve que le all-in, ça peut ne pas fonctionner. Et au contraire, le travail dans la durée, c'est plutôt quelque chose qui peut fonctionner aussi.
Tu crois à la réussite des Suns, Sacha?
Bah, moi, j'attends de voir. Après, sur Bradley Beal, je pense qu'il peut s'adapter parce que c'est quand même un joueur qui a fait toutes ses années à Washington et il a toujours... On rêvait de cette association avec John Wall, mais John Wall a fini par être quasiment blessé tout le temps. Oui. C'est vrai qu'il a eu des responsabilités. On les voit beaucoup moins... on le voit moins en mode playmaker et meneur, je suis d'accord. Donc, à voir s'il a encore ça et si c'est encore bien le faire. Après, il faut que ça fonctionne bien. Ça peut vite ressembler à n'importe quoi. Moi, je me rappelle du OKC avec Westbrook, Paul George, Carmelo Anthony. Je trouvais que c'était terrible à regarder. Alors que pourtant, il y avait de quoi faire des choses. Et j'espère que ça finira pas comme ça pour Phoenix.
Il faut qu'ils construisent quelque chose sur la saison régulière. Il faut que la saison régulière leur permette de créer une alchimie, de savoir. Parce que l'année dernière, rappelez-vous, à un moment donné, ils ont eu pas mal de matchs de fin de possession serrés. Et on savait pas vraiment si c'était Booker ou KD prendre les tirs parce qu'ils ont quasiment pas de vécu collectif ensemble. Et enfin, j'ose espérer qu'il n'y a pas de blessure et qu'ils jouent le maximum de matchs ensemble.
Exactement, ça leur permettra d'avoir une hiérarchie complètement établie. Même si nous, on est plutôt d'accord sur la hiérarchie, eux, ils doivent la trouver aussi sur le terrain et c'est important.
Est-ce que d'autres franchises ont fait mieux?
Juste un petit point, oui, il y a une petite nouveauté en NBA sur le load management. Je ne sais pas si tu as suivi ça. La NBA a été pris d'assaut sur le fait qu'il y a beaucoup de coachs qui reposent leurs stars, notamment lors des matchs télévisés, qui ne vont pas jouer. Aujourd'hui, il y a une nouvelle règle l'année prochaine. Ils ont établi des joueurs dans chaque équipe, c'est-à-dire des joueurs qui ont été All-Star ou des joueurs qui ont été dans les meilleurs 5 de la NBA. Ces garçons-là ne peuvent pas être mis au repos lors des matchs télévisés, ne peuvent pas être mis au repos, je crois, lors des back-to-back, sous peine d'amende pour les équipes. Donc, il devrait y avoir un peu plus de cohérence
en termes
de
jeu. KD est exclu de ça, je crois.
À cause de son passé blessure. Ouais. Mais Devin Booker est dedans.
Devin Booker est dedans.
Et ça, c'est arbitraire. C'est la NBA qui a décidé.
Exactement.
C'est pour permettre aux fans de voir les meilleurs joueurs.
Adam Silver a avoué qu'ils se sont fait dépasser par ce genre de choses-là, qu'ils ont été battus par les coachs et donc ils ont instauré cette règle-là.
Alors, est-ce que d'autres franchises ont mieux travaillé que Phoenix, finalement, dans ces mouvements? Qui, pour vous, tire les marrons du feu, Fred?
Tire les marrons du feu.
Moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait les Lakers. Alors, c'est beaucoup moins clinquant, mais dans l'absolu, l'équipe qu'ils ont montée, les trades, les re-signatures, moi, j'aime beaucoup.
Alors, vas-y, fais-nous un petit détail.
En fait, tu as toujours LeBron et Anthony Davis. Ils viennent de re-signer Vanderbilt. Ils ont re-signé Russell. Ils ont Hachimura, Gabe Vincent, qu'ils ont signé. Cam Reddish, qui a signé aussi. Jackson Hayes, Prince. Il y a Max Christie qui a fait une super Summer League aussi, donc je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour eux, un peu dans l'esprit de Austin Reeves, qu'ils ont re-signé aussi. Et Christian Wood qui vient d'arriver assez récemment.
Alors Christian Wood, c'est
une grande
déception.
Pour moi, c'était une énorme déception, effectivement. Sauf que là, il ne va pas être le joueur majeur. Il va être un joueur qui va pouvoir rentrer, marquer des points. Il va avoir de l'impact. Il est très déçu de son expérience à Dallas, donc je pense qu'il va vouloir montrer des choses. Je pense que
est
plutôt intelligent.
Il va pas, pas les aider défensivement, par contre.
Ah non, par contre, là, c'est un vrai trou noir défensivement. Mais là,
c'est pas son rôle. Oui. En sortie de banc, il va mettre des points.
Il va mettre les points qu'il faut.
Fred a raison, les Lakers, ça va être fort. Austin Reeves, on attend la confirmation. Il s'est émancipé aussi avec Team USA. Il va être starter. Ils ont une belle équipe, les Lakers. Après, il y a toujours ce point d'interrogation de la santé de AD et de LeBron. Ils vont avoir une année de plus, un passif en termes de blessures.
Et on va refaire des épisodes sur Anthony Davis dès qu'il sera blessé. Non, mais c'est vrai, l'an dernier, c'était peut-être le premier pétage de plomb de Stephen. C'était sur Anthony Davis. On s'en souvient.
Non, mais moi, je peux comprendre. Il est tellement incroyable quand il joue, sauf qu'il joue jamais.
Et alors, à part les Lakers, Qu'est-ce que vous avez envie de féliciter?
Je ne sais pas si je vais les féliciter. Je suis très curieux de voir Kristaps Porzingis avec les Celtics.
Alors, Porzingis, on parle de Christian Wood. Que dire de Porzingis? Que des promesses quand même.
Que des promesses. Il faut savoir que Porzingis arrive à Boston. Il va avoir le plus gros salaire. Il va être devant Jason Tatum et Jalen Brown. 36
ça
millions.
Va partir en couille.
36 millions la saison pour
Christaps
Porzingis.
Ça va voler en éclats. Donc, Tatum, il va être moins payé que Porzingis.
Oui,
il a le plus gros contrat de l'histoire. Donc, il n'est pas si mal que ça.
Tatum, il a le bocal, non, un peu, non?
Non, ça va. Moi, je suis curieux parce que l'année dernière, il y a cette défaite 4-3 sur un match 7 contre Miami. Porzingis va amener forcément des points. Il va écarter la raquette. La deuxième saison de Joe Mazzulla, lui aussi, on l'attend au tournant parce qu'il a fait quelques erreurs de coaching lors de sa première saison. Comment ils vont digérer le départ de Marcus Smart à Memphis? Ils ont une belle doublette de meneurs de jeu avec Derrick White et Malcolm Brogdon. Donc moi, Boston, je les attends prétendants au titre NBA, clairement.
Carrément, oui, normal.
Et Porzingis aussi. si, comme AD, je l'attends en tournant, j'espère qu'il va jouer des matchs.
Après, Brogdon, Smart... attention à son attitude. Je suis pas sûr qu'il soit très content d'avoir été une monnaie d'échange à un moment pour justement pour récupérer un autre joueur. Attention quand même, tu sais comment ça peut se passer avec les superstars.
Et Porzingis, qui a pas joué avec la Lettonie parce qu'il était blessé. Alors, il était certes à Manille, il a supporté les mecs, mais lui aussi, c'est un point d'interrogation sur sa santé.
Et ce qu'il perd en défense avec Marcus Smart, c'est pas préjudiciable, non?
C'est sûr qu'il le récupère pas avec Porzingis. Hein.
Ça peut pas poser un problème à un moment, non, en play-off.
Mais peut-être que ça enlève à Mazzulian un casse-tête supplémentaire, parce que Marcus Smart est un pilier de cette équipe-là, et qu'il fallait aussi lui donner des minutes. Quand vous avez Malcolm Brogdon et Derrick White, plus Marcus Smart, c'est aussi un casse-tête pour Joe Mazzulian. Voilà, ça fait beaucoup.
Smart à Memphis, moi je trouve ça un bon move.
On va en reparler, parce que les 25 matchs d'absence de Ja Morant sur le début de saison sera pallié par Marcus Smart.
Alors, totalement différent dans le style.
Oui, bien sûr, mais après, une fois que Ja Morant va revenir, le binôme peut être sympa. Il faut que Bébert Williams aussi soit en bonne santé du côté de Boston, parce qu'il a joué encore une fois aussi peu de matchs la saison dernière.
Sacha, est-ce qu'il y a une équipe qui te semble avoir bien bossé cet été?
Moi, je vais retenir deux équipes. Moi, j'aime bien le move de Chris Paul à Golden State.
Alors, ça sert à quoi, ça, Chris Paul à Golden State?
Moi, je le vois un petit peu comme l'acquisition de ce que pouvait être un Sean Livingston dans les grandes années de Golden State, c'est-à-dire un joueur qui est vétéran, qui est passé par des blessures, bon, qui a quand même un plus gros palmarès, on va dire, que celui de Livingston, même s'il n'y a pas les titres, etc., dans sa manière de jouer individuellement. Et je pense qu'un Chris Paul qui sort du banc pour Golden State pour attaquer face à d'autres bancs, ça va les alléger, ça va leur apporter quelque chose. La saison dernière, elle est compliquée pour les Warriors, il y a le cas Jordan Poole, etc.
Ça, c'était important de le régler quand même, ce cas, pour moi. Pour moi, c'était très important.
Dans le sens où il y avait cette embrouille avec Draymond Green où il se prend une patate, le gars prend des tirs que... au début, il fait des bons débuts, on est tous d'accord, on se dit « Jordan Poole, c'est une belle trouvaille, c'est encore Golden State qui sort un mec de derrière, enfin, qu'on n'attendait pas forcément. » Après, ça lui montait un petit peu à la tête, et la solution, ça a été
dégagé. Donc c'était mieux de le virer pour vous?
Je pense que c'était le move à faire.
Et la bonne nouvelle, en plus de Chris Paul, qui, je pense, va sortir du banc parce que c'est Curry qui va starter, c'est... retrouver Andrew Wiggins à 100%. L'année dernière, il joue que 32 ou 33 matchs avec des problèmes perso. Il a beaucoup manqué à cette équipe-là. Donc, les Warriors avec CP3. Ça va être curieux parce que CP3 a longtemps dit
Il va avoir un rôle secondaire, Chris Paul.
Bien sûr, mais est-ce qu'il n'est pas meilleur là-dessus? Parce que l'année dernière, en play-off, il est encore blessé. Donc il joue que deux matchs, je crois, lors de la demi-finale de conf. Mais les Warriors, qui avait des antécédents, hein, Chris Paul, les Warriors, Chris Paul, Draymond Green, ils ne pouvaient pas se blairer. Donc c'est curieux quand même de voir Chris Paul dans cette équipe des Warriors.
Bien. Il a un avantage, Chris Paul, c'est que dès qu'il arrive dans une équipe, ça joue mieux au basket.
Oui.
Et comme par hasard, ça a bien joué l'année dernière au basket.
Ça joue mieux et ça perd à la fin quand même. C'est bien le problème, mais
avec l'équipe qui est championne et qui a l'habitude de gagner. Ouais. Donc moi je trouve que ça peut matcher.
Est-ce qu'il y a une autre équipe dont on n'a pas parlé, dont il faut parler?
Les Rockets, dans le sens où ils ont fait beaucoup de transferts, en fait, ça va peut-être pas être un candidat ou quoi, mais il y a un changement qui s'est opéré. On rappelle qu'ils ont récupéré Fred VanVleet, Dylan Brooks, que tout le monde déteste. Il y a un gros problème avec
Kevin. Tout le monde aime détester
Dylan Brooks. Oui. Il y a Kevin Porter Jr. qui, à mon avis, va plus trop jouer en NBA, on va se le dire. Donc il y a quelque chose qui va se créer forcément.
Ils ont bien drafté aussi.
Ils ont bien drafté, avec Amen Thompson, avec Whitmore. Donc, il peut se passer quelque chose du côté de Houston, sachant qu'ils ont l'ancien coach de Boston aussi.
Oui, et ils ont récupéré, je crois, Jeff Green, qui était champion en titre avec Denver, donc un vétéran. Mais c'est vrai que les Rockets, ça peut être intéressant.
Et alors, il y a peut-être un dernier énorme move qui peut chambouler la hiérarchie. C'est celui, éventuellement, de Damian Lillard.
Despite requesting a trade out of Portland, still, September 15th, Damian Lillard is a Trailblazer.
My sense is that the Blazers have done a lot more talking with teams in the last, say...
But what can we expect? Let's say Damian Lillard isn't traded by them as training camp approaches.
The rule changes, the resting policy, that the idea that a player can just be parked away from the team, awaiting a trade.
Lillard, long range three, and it's good!
Alors, à 33 ans et après 11 saisons au Portland Trail Blazers, Damian Lillard a demandé son transfert. Il veut rejoindre Miami, donc candidat au titre évidemment, pour tout de suite viser la bague, qui lui manque, hein, évidemment. Est-ce que vous comprenez c'est Damien Lillard qui va faire une infidélité à sa franchise de toujours? Alors, ça a bien avancé ces dernières heures, c'est pas bouclé. C'est pas certain que ça se fasse, Sacha, mais on a l'impression que tout le monde est d'accord sur le principe.
Bah, c'est une situation où Damien Lillard demande son trade donc de Portland. Il dit très clairement qu'il n'y a qu'une seule équipe qui l'intéresse, c'est le Heat de Miami, parce qu'apparemment, il est tombé amoureux de la culture floridienne, la culture de la gagne. Sauf que maintenant que Portland, c'est ça, bah, eux, le but du jeu, c'est de récupérer le plus de joueurs possible. Et leur déclaration, mot pour mot, c'est on veut prendre tout ce qu'ils ont, Miami, concrètement, pour qu'ils récupèrent Damien Lillard. C'est là où potentiellement ça pourrait bloquer ou non. Et pour répondre à ta question, c'est un move que je ne comprends pas. On va juste récapituler qui est Damien Lillard. On va, la définition de ce mec-là, c'est surpasser les attentes. C'est je viens d'une fac qui n'est pas connue, je suis très très bon. J'arrive en NBA alors qu'il y a des gros noms au poste de meneur de jeu qui émergent, tels Kyrie Irving, Steph Curry. Et je n'ai pas forcément cette hype-là, mais je me révèle être un des meilleurs scoreurs finalement de la NBA. Je suis aussi capable de tirer du parking, je suis capable de caler des posters. J'ai été 7 fois All-Star. Et finalement... Je pense que c'est un joueur qui est apprécié parce qu'il est spectaculaire, parce qu'il est bon, parce qu'il fait gagner des matchs à une équipe qui n'est pas forcément le plus gros marché.
Et un des joueurs les plus clutch aussi. Hein.
Aussi. Ouais, quoique après, ça, on peut le relativiser, mais on ne va pas rentrer dans le détail.
Tu n'aimes pas trop les
meilleurs, non, mais il y a surtout il y a cette narration. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on apprécie énormément Damien Lillard, c'est justement cette loyauté à cette équipe qui, sur le papier, ne peut pas gagner, en fait. De cette franchise qui ne peut pas lui donner les pièces pour arriver à un titre. Et lui qui, justement, se bat contre vent et marée, les super teams, les échanges, les acquisitions, en disant « Non, non, moi, je veux rester. On va gagner, on va créer quelque chose. » Sauf qu'il y a une réalité, c'est que personne ne veut aller jouer avec Damien Lillard, puisque concrètement, jamais personne n'a fait savoir qu'il voulait le rejoindre ou quelque chose comme ça. Le maximum qu'il aura atteint, c'est une finale de conférence. Il s'est caché derrière ce discours de loyauté, de fidélité à cette franchise, qui est quand même assez louable. C'est des valeurs dont on a besoin, je pense, aussi dans le sport.
C'est peut-être sincère, tu dis, il s'est caché, c'est peut-être sincère.
Dans ce cas-là, si tu veux être loyal, tu veux apporter à ton équipe de la gagne, etc., tu signes pas un super max contract qui va limiter forcément les mouvements de ton équipe et ta capacité à recruter des joueurs. Je pense que c'est très paradoxal de faire ça, et je pense qu'on l'avait déjà dit, quand tu veux vraiment gagner, il y a des sacrifices à faire, superstar ou pas superstar, tu baisses ton salaire, tu fais venir d'autres joueurs. Damien Lillard n'a jamais fait ça, et là aujourd'hui, bah, il met un petit peu son équipe en mode braquage. Après, Portland, ça a l'air de mal se passer, mais il veut pas trop en parler. C'est aussi dommage parce que là aujourd'hui, quand il s'exprime sur ce transfert-là, à part dire je veux rejoindre le Heat, je vais pas parler de Portland, etc., il dit rien. Je sais pas, franchement,
Toi, t'aimes pas, quoi.
Bah non, parce que tu vois, on parlait dans le sommaire de trades qui peuvent entacher une legacy. La legacy de Lillard, elle repose sur le fait qu'il reste à Portland. S'il quitte Portland,
ouais, mais le problème, c'est que s'il fait 15 ans à Portland et qu'il prend sa retraite, qu'est-ce qu'on dira ? On dira Damien Lillard n'a jamais été champion NBA. Exactement. Et qu'il a été fidèle. Certes, c'est bien d'être fidèle, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ces joueurs-là, c'est plus important pour eux de gagner que la fidélité dans un club. Il a attendu, il a essayé Damien Lillard. D'ailleurs, il attendait de voir si Portland, avec le troisième choix de draft, allait bouger ce troisième choix pour faire venir des joueurs. Ça n'a pas été le cas. Finalement, Portland draft Scoot Anderson. Est-ce que drafter un meneur de jeu, Scoot Anderson, c'est pas dans l'optique de dire bah, si Damien Lillard part, c'est pas grave, on a un gamin derrière pour faire la maille. Il a 33 balais. Tu l'as dit, finale de conf avec CJ McCollum, ils ont peut-être loupé le coche là. Et après, c'est terminé. Ils ont fait deux fois le premier tour de playoff. Et depuis, il n'y a pas de playoff. C'est le néant. Je le trouve sévère. En fait, je le trouve sévère avec Lillard. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il ne dit pas « je veux partir à tout prix ». Sa quête de titre, quand il dit « je veux aller à Miami », on comprend vraiment que c'est pour être champion NBA. Parce que sinon, il aurait pu dire bah, « je veux être tradé, tradez-moi, je veux bouger ». Là, il veut aller à Miami, il sait que déjà, il veut changer de conférence. C'est déjà bien peut-être d'aller connaître une autre conférence et voir ce qui se passe ailleurs, dans une équipe où il sera appelé avec Butler et Adebayo. Moi, je n'ai pas envie de lui tomber dessus, Adam Lillard, quand pendant 11 ans, tu as essayé de faire les efforts. Alors oui, il a pris Supermax, et on ne va pas reprocher à un mec de prendre
c'est de l'oseille. C'est pas le premier ni le dernier, exactement. Dans les grosses franchises.
Moi, je comprends Sacha sur ça. Je comprends vraiment Sacha. J'y ai beaucoup réfléchi. Et effectivement, on peut pas reprocher à un mec de prendre le max de thunes possible. Sauf que de l'autre côté, tu peux pas être super exigeant sur le recrutement de ton équipe si toi-même tu le plombes en prenant le super max. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais
c'est paradoxal.
S'il avait pris 6 millions de moins, 7 millions de moins, Portland n'est pas une franchise attirante. Je sais pas quel joueur, quel autre superstar serait venu jouer à Portland, en fait. C'est pas le fait qu'on n'ait pas envie de jouer avec Damien Lillard, c'est le fait qu'on n'ait pas envie de jouer à Portland, en fait. C'est ça le problème. Donc s'il avait fait un sacrifice de 10 millions, je suis pas sûr qu'ils auraient pris un autre mec à côté.
Ben, ouais. Oui, mais tu n'es pas sûr, mais on, réellement, on ne le sait pas parce qu'ils ne les ont pas. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est difficile de juger sur ça. Moi, je te rejoins. Le mec a essayé, il a tout fait pour essayer de gagner avec cette équipe. Le front office, a rien fait pour avancer, pour faire progresser cette équipe. Et je peux le comprendre qu'il a envie de partir. Mais c'est vrai que quand tu plombes à ce point les finances de ta franchise et que de l'autre côté tu dis, je comprends pas, j'ai pas des joueurs que je veux pour gagner un titre, je trouve que c'est un peu compliqué intellectuellement à raisonner.
Puis ça va, Portland, enfin, je veux dire, il y a quand même des joueurs qui sont allés jouer à Cleveland, à Minnesota pour rejoindre des mecs. Je veux dire, Portland, ça a l'air d'être une ville sympa à côté.
Il y a Nike, si tu veux, un magasin.
Non, mais
qui est déjà allé à Portland ici?
Il y a des courses de vélo à poil aussi là-bas, mais bon, je n'y suis jamais allé. Mais après, voilà.
Comment tu connais cette information?
Au Cap d'Agde, il y a des courses de vélo à poil aussi. Hein. Tu n'es pas obligé de partir plus loin.
Non, mais je sais pas. Non, mais après, Damien Lillard, effectivement, c'est le symbole de cette franchise. C'est déjà une légende de Portland. Mais en fait, c'est un peu. Je suis désolé, et tu dis que je suis sévère, je vais en rajouter une couche. Franchement, c'est un peu un pleurnichard de la NBA. Toute sa carrière, elle est quand même basée sur « Vas-y, pourquoi je suis pas All-Star? Pourquoi je suis pas dans le premier All-5? Pourquoi je suis pas si? Pourquoi il y a personne qui veut venir jouer avec moi ?» Donc, c'est à l'image du gars, c'est-à-dire que bon, il a surpassé les attentes. Malheureusement, il arrive dans la NBA alors qu'il y a Curry, il y a Irving, etc. Donc, moi, je trouve qu'il sera toujours un petit peu derrière ces gars-là. Et parce que tu vois, tu as
plus de respect pour un mec comme Kyrie qui a fait plein de franchises, qui a coulé des franchises, plutôt pour Damien Lillard qui va peut-être faire deux franchises dans toute sa carrière.
Pourquoi Kyrie aurait coulé une franchise déjà? Kyrie
à Boston, il arrive à Boston avec des attentes hors normes, il part, personne peut le blairer Kyrie.
Mais personne peut blairer Kyrie de toute façon. Mais Kyrie, ce qu'il fait dans les playoffs et ce qu'il apporte à la NBA, je pense que faut pas non plus négliger, même si je suis d'accord avec toi, ce qu'il fait aujourd'hui c'est n'importe quoi, c'est une crise d'ado à retardement, on en parlait, mais ça reste quand même un mec qui marque le truc. Si tu te dis Lillard, parce que moi en fait Lillard il a impacté la NBA, c'est un joueur légendaire, mais si tu dis ça pour un mec qui a fait une finale de conf et qui a mis un buzzer sur Paul George, je dis quand même,
le contexte à prendre en compte, Lillard, McCollum, qui les voyait encore en finale de conf NBA? Personne, Sacha.
Ils ont, je vais pas dire ils ont le bon tirage.
Écoute, c'est un peu paradoxal ce que tu dis, parce que s'il s'en va à Miami et qu'il gagne, tout de suite son héritage est pas le même.
T'aurais fait comme Kevin Durant, t'aurais dit je vais chez les finalistes pour gagner concrètement.
Ouais, mais il n'y a pas la même cheat code quand même.
Portland ne perd pas contre Miami en
là-dessus, oui, je te rejoins, mais je trouve que c'est un aveu de faiblesse. Je trouve que c'est montré, en fait, c'est déjà
peut-être conscient des réalités, tout simplement.
Non, mais il se discute beaucoup et il remet tout sur la faute de Portland. Je trouve que c'est un peu faible.
Mais est-ce que concrètement, objectivement, on peut lui reprocher quelque chose au niveau du jeu et ce qu'il a apporté à son équipe? Objectivement, moi je suis pas le plus grand fan de l'IA, mais à un moment,
ça fait 11 ans où il est quasiment irréprochable.
Est-ce que tu peux vraiment lui dire si ça gagne pas, c'est à cause de toi?
Non.
Sur le jeu, je parle.
Tu peux lui reprocher de dire t'as dit que t'étais loyal et au final tu menaces de te barrer comme Kyrie l'a fait, comme machin, tu vois. Et je suis désolé.
C'est un peu plus propre. Non,
mais dernière chose, juste, il perdrait quoi Miami à transférer Lillard?
En fait, je pense qu'un trade Miami-Portland, ça n'existe pas. Je pense qu'il y a une troisième équipe qui va rentrer en jeu. Il faut faire un trade à trois équipes parce que. Ça colle pas parce que Miami peut pas envoyer et Tyler Hero et Bam Adebayo et je sais pas qui juste pour Damien Lillard. Donc je pense qu'il va y avoir un trade à trois
pour
équipes
pour récupérer des joueurs peut-être d'un standing inférieur mais qui comble ces manques là.
Et pourquoi pas un trade à trois avec les Knicks et Evan Fournier dans un trade, parce que Evan on en parle pas, mais la saison elle reprend dans 4 semaines.
Evan se retrouvera à Miami dans une équipe qui joue le titre,
oui, ou à Portland.
Ah ouais, non, mais c'est mieux à Miami, du coup. Ok.
Mais regarde, pour Damien Lillard, Yanis aussi a eu des propos il n'y a pas si longtemps que ça, alors que lui, il a déjà gagné avec les Bucks. Et lui, je pense qu'un titre ne lui suffit pas. Il a laissé entendre qu'il ne voulait pas prolonger. Il voulait voir ce que la franchise allait faire dans le futur. Et il va peut-être partir aussi, Yanis Antetokounmpo. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs...
Mais en fait, c'est qu'ils ne veulent pas finalement le beurre, l'argent du beurre et le reste de la crémière aussi. Ils veulent l'argent.
Et c'est un peu le problème de son des transferts en NBA, c'est-à-dire que quand tu es dans une franchise, tu es dépendant des choix de ta direction sportive, et si ça se passe mal, je comprends que les mecs ils soient perdus, parce que tu vois Giannis, le mec MVP et champion NBA, si jamais les Bucks font une mauvaise intersaison, des mauvais choix, il va pas se retrouver lui, joueur aussi dominant, une équipe qui n'a aucune chance d'être champion.
On parle de Portland, petit marché, mais Milwaukee, le jour où Chris Middleton arrête ou part, ou Brook Lopez arrête ou part, ou Jrue Holiday arrête ou part, je peux te dire qu'il est sur ta compo, ça va être très compliqué de reconstruire une équipe qu'il a pu avoir ces trois dernières années. Donc moi, je peux aussi comprendre la situation de Giannis Antetokounmpo.
Qui a envie de vivre à Milwaukee?
moi, j'y suis allé à Milwaukee.
Alors,
il y a une belle salle de basket.
Est-ce que tu as croisé Arthur Fonzarelli?
Non, pourquoi? C'est à Milwaukee, Fonzi?
C'est à Milwaukee.
C'est à Milwaukee. Incroyable, avec Richie Cunningham.
Non, mais c'est pas comparable avec Giannis, je trouve, parce que franchement, il y a des déclarations de Lillard qu'il faut pas oublier. C'est au moment où les super teams se forment et on commence à voir des moves à travers la NBA, c'est quand même le mec qui va tweeter: ah ouais, tout le monde fait des super teams, je vais leur montrer qu'on peut faire autrement. Tu vois,
il a essayé. Est-ce que Butler a des baillots Lillard, c'est vraiment une super team?
Je sais pas, mais moi, je doute. Si tu es Miami et que tu trades tous tes assets comme Portland le veut, c'est pas une garantie de réussite. Mais il faut pas occulter le fait que Damien Lillard, sa popularité, son image de marque entre guillemets, son storytelling repose.
Il parle comment Lillard quand il fait son Calimero là, parce que
il parle un peu comme ça.
C'est un texan en fait.
En fait, si tu veux, dans le palmarès de la NBA, c'est le meilleur rappeur basketteur et ça, je peux lui attribuer, mais je peux pas lui donner grand chose d'autre.
Non mais
tu t'es planqué. Regarde quand même, Pierre. Alors, toi qui es sensible à ça, tu peux pas avoir un discours toute ta carrière.
C'est toi qui es allé à leur compte. Tu dis pas, il a joué le mec fidèle et il peut pas changer. Et en même temps, il s'est planqué toute sa carrière. Non, c'est deux choses contradictoires.
Si tu veux, on va faire une métaphore. Damien Lillard, c'est le mec qui se fait tromper H24 par sa meuf, mais qui reste quand même et il dit non, mais c'est trop bien d'être avec sa meuf et tout. Et puis d'un coup, il a une révélation. Il fait ah non, en fait, c'est nul. Vas-y, je vais aller gagner avec l'autre meuf.
Oui, bah, il a raison. Écoute,
c'est quoi ces métaphores là?
Non, mais c'est parce qu'au final, il rejette toute la faute sur Portland. Lui, il a rien à se reprocher.
Que lui, il se décide, bah, si j'étais trompé pendant 11 ans, je vais faire une infidélité pendant un an.
Ouais, exactement, j'ai 3 mois aussi.
Non, mais voilà. Surtout que lui, il est très performant avec sa nana. Depuis toujours. Ah oui. Donc, quand même, à un moment.
C'est pas le cas de tout le monde.
Ça, il faut le noter quand même. Hein. On va rester dans la même thématique pour notre partie historique de ce Basket Time. Exactement.
Ladies and gentlemen, I'd like to report a trade.
Trade coming in right now. The Brooklyn Nets are trading James Harden to Philadelphia for the 76ers. Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond, and 2 first round picks. That's according to
the news again coming in moments ago. Kevin Durant heading to the Golden State Warriors. How are you viewing this move from Durant?
Well, I'm viewing it as the weakest move I've ever seen from a superstar. Plain and simple. That's just how I look at it.
In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat.
Miami Heat. That was the conclusion you woke up with this morning.
That was the conclusion I woke up with this morning.
Alors la question, alors là, elle est importante, elle fait peur aux fans de la NBA, aux fans des joueurs. Quel transfert a le plus entaché la légende d'un joueur? Alors évidemment, vous avez entendu Kevin Durant, the weakest move of the NBA star, un truc comme ça. Mm. Mais évidemment, alors on va en parler, qui va en parler? C'est toi, Steve. Ouais, Kevin Durant, OKC aux Warriors.
Exactement.
Il faut encore parler aujourd'hui, 10 ans après, ou pas loin.
Et si KD n'a pas, à mon sens, la juste reconnaissance et l'amour des gens par rapport à sa carrière et son talent, c'est uniquement à cause de ce choix-là, en fait. On fait un petit retour en arrière, saison 2015-2016, KD est un joueur de OKC avec Ibaka, Harden et Russell Westbrook, et il s'incline 4-3 en finale de conf contre les Warriors après avoir mené 3-1. Et à ce moment-là, les Warriors qui ont fait 73 victoires cette saison-là. Et on se dit peut-être que les Warriors vont voir leur domination sur la Conférence Ouest prendre fin avec cette équipe de KC. Et il y a un coup de tonnerre le 4 juillet, le jour de mon anniversaire, KD qui fait un statement et qui annonce qu'il va rejoindre ses bourreaux. Et là, tout s'écroule en fait. Tout s'écroule. La grande question, c'est pourquoi? Pourquoi, quand on est à un match d'aller en finale NBA avec une équipe très solide de KC, on décide de partir pour rejoindre les
jeunes et prometteuses?
Jeune et prometteuse et qui a un bel avenir, où tu rejoins Curry, Klay Thompson, Draymond Green et André Iguodala à cette époque-là. Et le raccourci, c'est, et peut-être la réalité, c'est la solution de facilité pour avoir une bague au doigt, en fait. Et ce jugement-là, on l'a, c'est-à-dire que KD, plutôt que de rester avec OKC, plutôt que de lutter et taper la meilleure équipe au monde avec celle des Bulls de la fin des années 90 pour être champion NBA et que cette bague ait une vraie valeur, eh ben, il a choisi la solution de facilité. Et c'est ce qu'on va reprocher à KD. Et avec ce trade-là, on a franchi un cap supplémentaire dans l'ère des super teams, en fait. Et Fred aime bien le dire, c'est qu'il a foutu le bordel. en NBA depuis ce trade-là. Ça a foutu le bordel, puisque la team Curry, Thompson, Green, Iguodala plus Durant, c'est une équipe que tu crées toi-même sur NBA 2K, normalement, quand tu fais tes petits trades. C'est une équipe qui ne doit pas exister dans la Ligue. Alors, le bilan, après, il est bon, parce qu'il y a deux bacs de champions en trois saisons. Mais ensuite, KD, il a fait d'autres choses. Il est allé à Brooklyn 4 saisons. Il a rejoint Phoenix la saison d'après. Mais le problème, c'est que ce trade-là, il entachera toute sa vie la carrière de Kevin Durant. Alors que, bizarrement, ça avait choqué moins de monde quand LeBron avait quitté Cleveland la première fois pour rejoindre Miami et rejoindre D-Wade et Chris Bosh. Et moi, je suis un peu triste pour Kevin Durant, qui est pour moi un des plus grands attaquants au monde et qui est pour moi un bien meilleur joueur que LeBron James. Et je suis désolé, sa carrière, elle est entachée de ce trade-là.
Je te rassure, Kevin Durant, il n'en a rien à cirer de ces débats-là.
Bien sûr qu'il n'en a rien à cirer.
C'est sa grande force. Hein, et c'est sûrement pour ça qu'il a fait ce choix-là.
Et c'est peut-être pour ça qu'il est moins populaire un garçon comme LeBron James.
Je suis sûr qu'il n'en a rien à foutre.
Ah ouais,
on a vraiment rien à foutre. Est-ce qu'on fait des faux comptes Twitter pour répondre à tout le monde?
Non, mais vraie question, c'est vrai, quand même. C'est vrai. Non, mais on a l'impression, puisqu'il a recommencé après, honnête. Alors ça a lamentablement foiré, mais l'idée était à peu près la même.
En fait, à partir de ce moment-là, il a joué que dans des super teams.
Ouais.
KD. Et Phoenix avec Bradley Beal.
Et toi, tu lui en veux encore, Fred?
Bien sûr, il a défoncé la NBA. Bien sûr, il a foutu le bordel. Évidemment. Ça a créé des super teams, ça a créé des.
En plus ça, il joue avec Team USA, gros. Le mec peut pas s'empêcher de jouer à la meilleure joueur du monde.
Au moins ça a marché.
Et c'est le meilleur marquant.
Pourquoi il
n'a
pas joué avec la France?
Au moins ça a marché. Là, parce que ça aurait
pu
aussi
Durant,
partir en sucette.
Ça passe trop bien. Kevin Durant, il est bien français, non?
Alors, quel autre move a entaché la légende d'un grand joueur, Fred?
Ouais, il y a beaucoup de mots qui mis ensemble. Je pensais pas que je dirais James Harden, tu vois, parce que légende, grand joueur, ça me pique un petit peu.
Ah, quand même, mais il est
quelque
spécial,
part un petit peu. Alors déjà, James Harden, il faut se rappeler que c'est lui qui est parti d'OKC en premier. Il a pas voulu re-signer et il a signé à Houston. Enfin, il a été tradé par son équipe à Houston. Il arrive à Houston. Il faut se rappeler quand même quel type de joueur c'est. Quand il est à Houston, il est deux fois deuxième du vote de MVP. Il est MVP. C'est un des joueurs les plus incroyables qu'on ait vu, meilleur passeur deux fois de la Ligue, je crois, trois fois, meilleur scoreur, donc un joueur fantastique. Sauf qu'un jour, il dit, j'en ai marre de jouer à Houston. Je vais arriver avec 20 kilos de trop, j'en ai rien à faire, je vais mal parler de vous, et je vais plus rien foutre du tout. Et c'est exactement ce qui se passe. On arrive à une situation complètement absurde, folle.
Et le premier conflit avec Daryl Morey.
Exactement, premier conflit avec Morey, effectivement. Situation complètement folle où le mec fait tout pour se faire trader. Il se fait trader, il arrive au net, d'accord ? Donc moi, c'est pour l'ensemble de son œuvre vraiment que j'ai envie de parler de James Harden. Il arrive au net, et là, qu'est-ce qui se passe ? Il essaie de jouer avec ses copains un petit peu, KD et Kyrie. Là non plus, ça se passe pas bien, ils jouent 16 matchs ensemble. Et là aussi, il a envie d'être tradé, il va aux Sixers. Là, d'ailleurs, ça a apporté beaucoup de chance à cette équipe des Nets qui a récupéré Ben Simmons, qui est un succès phénoménal pour cette équipe des Nets. Et donc, il va aux Sixers, il joue 2 ans, où il joue plutôt pas trop mal d'ailleurs. Il est plutôt cohérent, il se transforme en plus. Il a Joel Embiid à côté de lui, donc il dit, attendez les gars, franchement, ce duo, il est fait pour s'entendre. Deux spécialistes du pick and roll, avec un super passeur. Il va insulter Morey en disant, je ne jouerai plus pour ce gars-là. Donc là aussi, il fout le bordel incroyable, il paye 100 000 euros d'amende, il s'en fout. Parce que lui, ce qu'il préfère, c'est les clubs de striptease. Et apparemment, j'imagine, enfin je peux me tromper, hein, mais à Philadelphie, ils sont pas à son goût. Donc là, il redemande son transfert. Et là, il demande absolument d'aller aux Clippers. Donc en gros, l'histoire de la vie de ce garçon, c'est joueur fantastique, je l'ai dit, hein, MVP, deux fois deuxième au vote de MVP, ce qui est quand même fantastique. Trois fois meilleur scoreur, deux fois meilleur passeur.
36 points de moyenne en 2018-2019.
Un joueur incroyable. Et quand je pense à James Harden, j'ai quasiment envie de vomir. C'est exactement le type de joueur qui me dégoûte
comme Dominique Farrugia dans.
C'est quand je suis triste de prononcer le nom de James Harden parce que c'est un joueur qu'on peut ne pas aimer.
Attention, grande rentrée de Fred Weiss.
Parce qu'on a parlé d'Damien Lillard tout à l'heure, il va sûrement se présenter au training camp si le trade n'a pas eu avant. Mais James Harden, là, moi j'attends s'il n'est pas tradé, j'attends la reprise du training camp au Sixers.
Du coup, Philadelphie, ça va être n'importe quoi là.
Ça va être
quoi, comme d'hab. Hein.
Après.
Mais tu sais ce que j'ai envie de te dire ? Trust the process. Après, les filles, c'est qui vont faire.
Sacha.
Comment passer après Fred, sérieusement ?
Ah là, c'est dur. Hein. C'est là, tu me l'as massacré.
Ouais, bah écoute, je vais massacrer quelqu'un gratuitement
encore,
aussi.
Encore, toi aussi.
Non, mais c'est bien parce qu'on a des histoires différentes. Tu vois, on a KD, c'est le mec qu'on disait qui était sympa, mais finalement, en fait, c'est le mec qui veut être bad boy toute sa vie et qui fait que des moves de fou. On a Harden qui, lui, veut juste vivre sa vie. Et bah, moi, je vais parler.
Bon, la différence, c'est que KD est champion quand même.
C'est vrai.
Ça change beaucoup de choses.
Et bah, écoute, je vais te parler d'un mec qui aurait peut-être pu être champion, c'est Paul George. Parce qu'on se rappelle, Paul George. Paul George, c'est, bah, c'était la peut-être le meilleur pick de draft des Pacers sur les dernières années. C'est un joueur qui a dû s'élever quand Danny Granger était absent de sa franchise et qui est devenu le franchise player, qui a joué dans les yeux dans les yeux avec LeBron James sur une série de playoffs contre Miami. Joueur exceptionnel, mais en fait qui tue sa carrière tout seul dans tous les sens en fait. Parce que Paul George, c'est quelqu'un qui du coup va demander à être transféré d'Indiana vers OKC parce qu'il sent qu'il y a un move qui se passe avec Westbrook, avec Carmelo Anthony. Finalement, ça s'est avéré être un très bon trade d'ailleurs pour Indiana puisqu'il récupère Sabonis au passage et récupère Oladipo qui les a fait, bon, qui leur ont donné quand même des beaux matchs et des belles saisons. Derrière Paul George, sa dernière saison à OKC, il est troisième au candidat MVP. Donc tu te dis quand même, le joueur est solide, il fait très partie fort de l'élite, très très fort. Dans le jeu, il prend énormément de tirs, mais il les met dedans, donc on ne va pas lui reprocher. Par contre, ce qui fait tâche, c'est qu'il se fait éliminer au premier tour par Damien Lillard avec un immense buzzer sur la tronche.
Bonjour Damien Lillard.
Bonjour à lui d'ailleurs. Là, comme quoi, on peut boucler aussi dans les autres sujets. Et là, le move de Paul George, c'est de se dire, eh ben, je vais me barrer aux Clippers parce qu'il y a Kawhi qui va aux Clippers, donc je pense que je vais aller le rejoindre en fait. Et en fait, bah, tu passes vraiment de candidat MVP à un mec qui devient en fait drôle et clownesque parce que Paul George aux Clippers, c'est... Non mais c'est vrai.
Non mais ce podcast, ça devient... C'est une machine à fusiller les mecs, quoi.
C'est un carcère.
Non mais regarde, parce qu'il arrive aux Clippers et on sait que le cœur de ce projet des Clippers, c'est Kawhi Leonard, c'est Paul George. Bon, il y a les blessures, etc. Au final, on voit que Paul George peut arriver... Bah, en fait, c'est tout le temps l'un ou l'autre. Il y en a un qui est valide, l'autre qui est blessé. Quand Paul George est celui qui est valide et qui va en playoff, il commence à te faire des dingueries. Mais vraiment, les gens se foutent de sa gueule en l'appelant... Parce que lui, il a dit, ouais, vous allez voir, ouais, j'ai le mode Playoff P, là, ça va être très très chaud. Les mecs ont fait, attends, mais c'est ça, Playoff P, parce que bon, des lancers clutch ratés, deux de suite, etc., pour aller en prolongation contre Phoenix. Enfin, il a accumulé toutes les conneries. Il est passé de potentiel MVP à lieutenant. Et aujourd'hui, c'est un joueur, en fait, je sais même plus s'il fait partie de l'élite NBA, parce que j'ai l'impression qu'il fait des trucs dans le vent avec
attention,
cette équipe des Clippers.
Attention, parce que c'est pas fini, les Clippers, peut-être.
Oui, alors cette image-là de il a disparu, j'attends de voir, parce que ça reste quand même un joueur hors norme. Si j'ai envie de le voir en bonne santé avec Kawhi, faire une bonne saison tous les deux et jouer des
il
matchs.
Il dit que James Harden va arriver, ça ira mieux.
Non, je crois que c'est sens, c'est terminé. Ils ont mis fin.
Mais il est frustrant.
Attention
quand même
à Paul George, ne pas enterrer Polo. Con.
Ouais, il est frustrant parce que.
Quel beau joueur.
Il pue
quel
la facilité en fait. C'est-à-dire que quand tu le regardes jouer au basket, d'une part ça a l'air facile et de deux c'est beau.
Magnifique.
C'est vraiment esthétiquement parlant, tu fais difficilement mieux que Paul George parce que t'as du tir, t'as du cross, t'as du dribble, t'as de la passe, t'as de la défense et t'as des gros dunks. T'as vraiment tout ce qu'il faut pour kiffer le basket. Maintenant dans le comportement, voilà, c'est la seule bague qu'il a eue, c'est celle quand il a épousé sa meuf. Et voilà, après c'est.
C'est bien déjà. Je l'ai pas celle-là.
Bah, le regret que j'ai quand même, c'est que tu m'aies pas parlé de LeBron James quand même, lors de son move à Miami.
Respire.
Alors, c'est peut-être s'il y a un mec qui a pâti d'un transfert, parce que lui c'est le plus grand, enfin
pâti,
le plus grand,
je suis pas sûr qu'il en ait pâti beaucoup
et sur le moment oui
mais après on l'a vite oublié
exactement parce qu'il est retourné à Cleveland, qu'il a fait gagner Cleveland et tout va bien, mais sur le moment c'était un truc de ouf quand même,
surtout la communication,
c'était une déception de la part des fans de Cleveland, de folie.
The Decision, ça a été je pense le seul point noir de la carrière de LeBron James où vraiment unanimement il était critiquable aux yeux de tout le monde,
et heureusement qu'il gagne à Cleveland.
Oui. Ouais, et ça, c'est le chemin de la rédemption, et c'est ce qu'il a choisi de faire. Et c'est ce que KD aurait pu faire, parce qu'on sait qu'il était. On a souvent parlé de cette rumeur, KD à Washington, sa ville d'origine, Bradley Beal, il y a moyen de faire quelque chose. Eh ben, il aura peut-être pas eu ces cojones-là d'aller tenter un truc avec sa ville, d'essayer d'acheter son chemin vers la rédemption.
Allez, le premier spécial NBA de la saison de Basket Time se termine par un quiz, comme d'habitude.
J'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier. C'est parti chez
Sting. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là,
premier.
C'est après ou pas?
C'est Alex.
Le roi des corps verts ménagères.
Ouais, exactement. C'est plus trash que ça. Hein. C'est plus violent.
Fuck you.
Bah, tu te rapproches.
Asshole, motherfucker, son of a bitch.
I lock that shit up, boy. I lock fermer sa gueule à cette merde.
Tu commences à partir en process qui croit après un titre, ils sont.
Tu peux me laisser parler?
Alors attention, parce que Fred est en forme. Fred a humilié Geoffrey Charpie et Arnaud Valadon la semaine dernière. Il est tenant du titre. Tu remets ta bague en jeu. Fred, ça va être une boucle qui démarre de Damien Lillard et qui se termine avec Damien Lillard. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Damien Lillard s'est présenté à la draft 2012 sans faire sa dernière année universitaire et il a été drafté en sixième position. Est-ce que vous êtes capable de,
2012,
de me donner un joueur choisi plus haut lors de cette draft 2012? On démarre avec Sacha.
Oh, oh l'horreur.
Okay, y a cinq
pas
joueurs.
Facile, hein. Il y a cinq joueurs. Il y a cinq joueurs, il y a deux superstars, un joueur connu, un joueur qui a fait sa carrière et un autre qui a disparu complètement des radars.
Voilà. 2012.
Mais il y en a un ou deux quand même faciles à trouver.
Alors, je suis pas
et on a donné leur nom dans cette émission.
Les cinq
non, les deux les plus connus. Les deux les plus connus. Allez, tente un truc. Ouais. 2012.
J'ai plus les dates en tête.
Mm-hmm. Allez, tente.
Ouais, t'as une, je suis nul.
Bah, ouais, réfléchis pour la
gagne. J'ai déjà réfléchi, donc c'est à
t'as
moi
ton nom
en plus. Ouais,
ouais, si tu tardes trop, je passe à Fred.
Ouais, c'est à moi, allez.
Ah non, mais attends.
C'est plus long que ta chronique.
J'ai testé John Wall.
John Wall, non, c'est pas bon. Fred.
Moi, j'aurais dit AD.
Anthony Davis, numéro 1 de la draft. Bravo. Un point pour Fred. Steve.
Bradley Beal,
numéro 3 de la draft 2012. Bravo. Est-ce que vous voulez continuer? Si quelqu'un a encore des noms, j'accorde des points à Sacha. Tu veux tenter une deuxième réponse ?
2012. Donc ça, c'est les deux cracks, ça. Les deux superstars.
Ouais, 1 et 3.
Et après c'est trois pipes.
Après, non, il y a un mec qui a complètement disparu des radars et deux gars qui ont fait leur carrière. Dont un qui joue toujours, je crois. Même peut-être deux. Ouais. Et après, c'est pas des kings. Hein.
Moi, je sais pas.
Non, vous les avez pas. En deuxième position.
Drafté par quelle équipe ?
Drafté par les Bobcats en deuxième position.
Et Mecca Okafor ?
Non, c'est Michael Kidd-Gilchrist.
Ah, ouais, ah oui, ah mais elle est sombre cette draft.
Et numéro 4, Dion Waiters.
Ah ouais.
Et alors numéro et 5.
Vas-y, dis, quelle équipe
les Kings.
Sacramento.
Ouais, Thomas Robinson.
Ah oui,
Thomas Robinson. Il joue en Euroleague après.
Ouais. Alors, ça fait un point pour Steve, un point pour Fred. Donc, pourquoi je suis passé
ouais. Ensuite, la boucle, ouais.
Alors, Bradley Beal. Donc, numéro 3 de cette draft. Quitte les Washington Wizards, où il a longtemps formé une paire d'arrière redoutée avec John Wall, dont oui. Tu m'as cité le nom, Sacha. John Wall, sans club aujourd'hui, mais quelle équipe de Euroleague s'est intéressée à lui cet été ?
Partizan Belgrade ?
Non.
Milan ?
Olympia Milan, bravo Fred. Fred est là. Fred est sur sa lancée de la semaine dernière. Alors, ça ne s'est pas fait, et pour l'instant, il n'a pas de club. Il pourrait jouer, lui, en...
Il peut jouer à Berlin, non ?
En Euroleague ? Oui, ce serait bien à Berlin. Non, ça pourrait le faire ou c'est cuit, il est fini ou
en Europe, oui, mais Euroleague, je sais pas.
Moi, si je demande à voir un Kemba Walker, je sais pas déjà par rapport à ses blessures. Donc, Wall, c'est un peu le même style, je trouve.
Alors, je vais vous poser une question sur Milan maintenant.
Oh là.
Chacun votre tour, c'est Sacha qui va démarrer puisque Sacha, t'es à la bourre.
Milan basket ou Milan la ville ?
Milan basket, Olympia Milan.
Aïe.
Quel joueur de Milan de cette saison-là ?
C'est qui, Sacha ?
C'est Sacha, ouais. C'est chacun votre tour. Okay. Un joueur de Milan qui a déjà évolué en NBA.
Oh
allez, vas-y, c'est parti. Je ne vous dis pas
c'est
combien il y en a.
C'est la question pour tout le monde.
Ouais, mais chacun votre tour, par contre. Vous répondez chacun votre tour. Il y en a plusieurs. Hein. Sacha, même pas trois jours, s'il te plaît. Hein. Il y en a
non, quand même. Mais Milan, purée. Déjà, je confonds souvent avec la Virtus. Je mets ouais, les deux ouais, trucs d'accord. En tête. Bah si, non.
Oui.
Bellinelli.
Il joue à Virtus.
Merde, mais putain, c'est terrible. Je t'ai dit, non, mais c'était sûr que j'allais faire ça en plus.
Tiff.
Nicolò Melli.
Nicolò Melli, c'est excellent. Il a joué à Dallas. Absolument. Il a joué aussi aux Pelicans, Nicolò Melli. Fred.
Je pense que Gigi Datome.
Non.
Il n'a pas joué à NBA,
Gigi. Si, il a joué à Boston.
Si, il a joué.
Et alors, je l'ai pas vu
si,
dans
il a joué
roster.
À Boston, il a joué à Détroit. Mais je crois qu'il est à la retraite.
Fini. L'année dernière, il était dans le roster. C'était l'année dernière, tu
Non, non, cette saison-là.
Ah, ok. J'avais pas entendu.
Donc, c'est pas bon. Pour moi. Sacha, deuxième chance. Il y en a plusieurs. Hein.
Ah, il y a des petits arrières là, qui shootent, mais. Ah, franchement, ah,
c'est dur. Hein.
Non, j'ai beaucoup de mal avec Milan, je te mens pas.
C'est dur et c'est facile en même temps.
Bon, non, vas-y. Rodriguez, il joue plus là-bas.
Non, allez, non. Tu dégages. Stephen.
Kevin Pangos,
excellent à Cleveland, il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Fred. Non, mais Fred, il y en a un qui est très facile.
Mirotic.
Bah voilà, quand même. Après les autres, c'était plus dur. Sacha, tu veux retenter ?
Oh non, c'est bon.
Steve.
Je vais tenter un garçon, je ne sais pas s'il a joué à NBA. Devon Hall, il a joué à NBA.
Devon Hall a joué au Thunder en 2019. Bravo, Steve. Il en reste un, Fred. Un seul. Qui a fait deux franchises, mais ça commence à dater et surtout, il y a passé peu de temps. Est-ce que tu l'as ou est-ce que tu ne l'as pas? Tu veux tenter
un italien?
Un italien?
Non.
Non, je ne sais pas.
Ah oui, tu l'as. Teodosic? Non.
Non.
Teodosic, il joue au Partizan. Il joue à l'Étoile Rouge de Belgrade.
Autant pour moi.
Milan.
Ah, une tentative après, on passe.
Non, je sais pas.
Alex Poitras, aux Sixers et aux Pacers. Donc 4 points pour Steve, 3 points pour Fred. Nikola Mirotić, donc, a changé de. Encore une fois, changé de club. Vrai ou faux, j'ai coaché Nikola Mirotić. D'accord. C'est toujours Sacha qui démarre. J'ai coaché Nikola Mirotić. Vrai ou faux? Pas moi. Hein.
Non, j'ai pas compris. Dis quoi?
Ça, c'est faux, d'ailleurs.
C'est faux, mais ça rapporte pas de points. Pablo Lasso.
Oui, il l'a attrapé, je pense.
Il l'a attrapé avec son Lasso ou pas? Sacha, il est en panique en Euroleague. C'est horrible.
Non, parce que Lasso, je le vois au Real et Mirotić, je le vois au Barça, donc je vais dire non.
Mais oui, mais Mirotić, il est passé au Real avec Pablo Lasso.
Il est passé au Real?
C'était donc
tout
vrai.
Début. Avant de partir en NBA.
Fred, Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, tu vois qui c'est quand même?
Vrai.
Réfléchis, oui, c'est vrai. Aux Bulls, absolument, ouais, saison 2014-2015. Steve Stan Van Gundy.
Stan Van Gundy.
Stan Van Gundy, ouais.
Stan Van Gundy.
Ah là, il faut réfléchir, là. Où, quand, comment?
Ça, c'est le genre de truc où c'est, finalement, c'est son frère, c'est Jeff.
Alors, Stan c'est Van Gundy, ça. Il a coaché les Pelicans, Stan Van Gundy. C'est ça la vraie question.
C'est ça la vraie question.
Parce que Mirotić, il est passé aux Bucks, mais c'était Mike Budenholzer. Il est passé aux Bulls, c'était Tom Thibodeau. Et aux Pelicans, je vais dire vrai alors.
Alors, c'est faux. Et pourtant, Stan Van Gundy a coaché aux Pelicans, mais le coach de Mirotić, c'était Alvin Gentry aux Pelicans. C'est dommage, parce que tu avais fait le bon raisonnement et ça m'ennuie. Surtout que tu viens d'offrir un point à Sacha, Mike Budenholzer. Ah.
Oui,
c'est vrai, bravo, c'est ton premier point. Fred, Georgios Bartsokas, est-ce qu'il a coaché Nikola Mirotić? Il est dur le quiz aujourd'hui.
Non.
Hein, non, il n'a pas coaché, bravo, à Barcelone, ils ne se sont pas croisés. Oui. Bravo Fred, Fred, tu reprends la main. Mais Steve, tu peux égaliser Ettore Messina.
Ettore Messina. Ettore Messina. Ettore Messina.
Ettore Messina.
Et je vais dire non.
C'est vrai et doublement vrai au Real et à Milan cette année.
Ah oui, cette année.
De toute façon, il y avait le Real. Hein, donc, quoi qu'il arrive, la réponse était vraie. Et donc, Fred a repris la main. Bravo, Fred. On se rapproche de la fin, mais là, on va encore dans le plus deep. Enfin, là, ça devient vraiment dark comme question. Là, on arrive sur Ettore Messina. Ah, et ouais. Là, je vous ai sorti une question de l'espace.
Parce que les autres étaient normaux.
Non, là, ça devient pire. Hein. Ettore Messina, assistant coach aux Lakers, saison 2011-2012. Alors attention, hein. Frère, cette année-là.
Oh putain. Cette année-là,
dans l'effectif des Lakers, il y a un futur joueur de Gravelines. De qui s'agit-il?
De Gravelines.
Landry Noko?
Non.
De Gravelines cette année ou qui
non,
a joué
Gravelines 2020.
Mokoka? Ah, ok.
Je vous avoue, j'ai découvert le nom de ce mec hein, alors, en préparant le quiz. Hein. Mais je pense que vous le connaissez, vous.
John Jenkins?
C'est un meneur, non. Qui a fini sa carrière à Gravelines en 2020.
Qui a fini sa carrière à Gravelines en 2020.
Au moins, tu vois,
Ulysse?
Non, les supporters de Gravelines sont contents parce que Ulysse.
Buck?
Dwight Bikes. Ils disent n'importe quoi, non.
Non, si,
si c'est de mon.
Non, bah vous l'avez pas.
Initial.
DM.
Pardon?
D.M.
Daniel Marshall. Non, Marshall.
Non.
D.M. Randolph.
Non.
Prénom?
Darius.
Darius Morris.
Darius Morris.
Bravo.
Ah ouais, mais je prends pas le point, non. Je te le dis.
Ok. Non. Allez, Darius Morris, drafté en 2011.
Oh non. La draft 2011.
Je pense que c'est le quiz le plus dur de l'histoire.
Ah aussi,
ouais, bah là, oui, on n'est pas loin.
Ok, cette année-là, quel joueur 6 fois All-Star, MIP en 2015, est drafté en dernière position du premier tour, 30e? Donc de la draft 2011, il sera 6 fois All-Star,
ouais, je sais qui c'est.
Most Improved Player en 2015.
Je le dis maintenant ou pas?
C'est comme tu veux.
Vas-y.
Je pense que tu peux attendre parce que d'après moi, ils sont largués les deux. Là.
Vas-y.
C'est Jimmy Butler.
Excellent, bravo Steve. Égalisation. 5 points pour Fred, 5 points pour Steve, 1 point pour Sacha.
Donc on va où avec Jimmy Butler maintenant?
Eh bien on va l'écouter. Non, on va pas l'écouter, stop! On va pas l'écouter. La question est qui parle de Jimmy Butler en ces termes.
I always like Jimmy.
Jimmy.
I always like Jimmy.
Lillard.
Excellent. La boucle est bouclée. Damian Lillard, I always like Jimmy.
Bah oui.
Donc là, on est à 6 points pour Fred, 5 points pour Steve et 1 point pour Sacha. Donc il y a deux solutions. C'est comme dans les livres dont vous êtes le héros. Soit on arrête là parce que c'était assez dur comme
c'était
ça.
C'était quand même assez dur comme ça.
Soit il y a une question multipoint mais qui est infâme. Alors c'est vous qui choisissez.
On a envie de voir jusqu'où
non,
tu peux aller.
Normalement, c'est celui qui est en tête qui décide.
Allez.
Là, je, pense que tu vas, je pense que tu vas gagner quand même.
Ouais, je
mais
sûr.
Elle est infâme. Hein.
Okay.
Vous allez me maudire. Ok. Chacun votre tour, vous allez me donner le nom d'un joueur qui a porté le maillot des Portland Trail Blazers et qui est entré au Hall of Fame. Ils ne sont que 6. Ils ne sont que 6 au Hall of Fame à avoir porté le maillot des Portland Trail Blazers. C'est Sacha qui commence.
Clyde Drexler.
Voilà. Ça, c'est ton point. Tu l'as, c'est bon. Ensuite, Steve.
Scottie Pippen.
Scottie Pippen, excellent. Bravo. Bravo. Ah là, là vous êtes très bon. Hein. Fred, il y en a
c'est
un
deux
pour
que
toi.
J'avais.
Ouais, mais il y en a un pour toi.
Hall of Fame NBA ou Hall of Fame FIBA ?
Hall of Fame NBA.
Parce que sinon, FIBA, j'avais Sabo.
Attendre quelque chose.
Sabonis.
C'est bon. Bravo. Bravo. Donc, tu gardes ton avantage. Il en reste 3, là, ça devient dur. Hein. Mais c'est des joueurs connus. Hein. C'est dur, voire très dur, mais c'est des joueurs connus. Stephen.
Non, c'est à Sacha.
À Sacha,
Moi, je vais tenter Rachid Wallace.
Non, c'est pas bon. Stephen.
Je pense à quelqu'un.
Oui. Vas-y.
Je pense à
vas-y,
quelqu'un.
Vas-y, mon grand, lance-toi.
Mais je ne sais pas s'il est rentré. Je pensais à un Allemand, mais je ne sais pas s'il est rentré, qu'il a joué à Portland.
Un Allemand.
Ouais, je pensais à Detlef Schrempf.
Detlef Schrempf.
Non,
mais
c'est pas bon.
Non, c'est pas ma proposition. Mec, je pensais à lui.
Mec à moitié vénère. Allez, vas-y.
À Portland, Drexler, Pippen, Arvidas Sabonis. Terry Porter, il n'y est pas. Terry Porter, il n'y est pas. Jérôme Kerzi, il n'y est pas. Il faut penser aux années où ils font les finales contre les
Bulls. Aux années où ils font des finales, où ils gagnent le titre même.
Ils gagnent le titre ?
Mais ils ont un titre ?
Mochix ?
Non. Est-ce que tu veux tenter ?
Le titre ?
Wes Unseld ?
Non.
Bon, j'ai vraiment
tu veux tenter ou pas ?
Ils gagnent le titre ?
En 77.
Wow. Begley.
Comment tu dis ?
Begley.
Ah, j'en sais. Je crois que je sais, j'en ai un.
Vas-y.
Non, il n'y a pas Bill Walton ?
Il y a Bill Walton,
ah ouais.
Bravo mon grand. Ça ne te fera pas gagner, mais ouais, ça fait un point de plus.
C'est qui les autres ?
Et alors, il reste deux joueurs. Un Européen. Un Européen, mais qui s'est illustré dans une autre franchise.
Tony Kukoc ?
Non, mais vous vous rapprochez géographiquement, vous vous rapprochez.
Drazen Petrovic.
Drazen Petrovic. Ouais. Et le dernier, c'est assistant coach de la Dream Team 92. Un grand joueur, 9 fois All-Star, mais pas champion NBA. D'une autre époque, hein. Puisqu'il était coach en 92.
Oui,
oui. Hein. C'est Lenny Wilkens.
Lenny Wilkens. Ah, oui.
Victoire de Fred. Et là, on dit bravo parce qu'il y a eu une vraie
Fred.
Opposition
bravo
en face,
Fred.
Contrairement à la semaine dernière.
Bravo Pierrot
pour
ce quiz.
À la semaine prochaine. C'était très dur. C'était très dur de défendre. Basket Time.